La musique instrumentale. C'est pendant la période de la Renaissance que la musique instrumentale se sépare de la musique vocale. Il faudra attendre le milieu du XVIIIe siècle pour qu'une distinction véritable se fasse entre musique de chambre et musique symphonique. La première concerne la musique pour petits ensembles, trio, quatuor, quintette, et la seconde, la musique symphonique dédiée à l'orchestre symphonique. La musique de chambre. Jusqu'au XVIIe siècle, la musique de chambre, avant l'apparition des concerts publics, désigne une musique destinée à être jouée chez un particulier. Les formations de musique de chambre ne comprennent généralement que des instruments à cordes, ni cuivres ni percussions, mais clavecin et plus tard piano. Sa distinction réelle d'avec la musique d'orchestre se fera vers 1770. Cette date est la période à laquelle Mozart et Haydn écrivent des symphonies pour orchestre jouées en public. La musique symphonique. À la différence de la musique de chambre, la musique symphonique est destinée à un orchestre, celui-ci sera dit symphonique. La véritable naissance de la musique symphonique se fait au début du XVIIIe siècle grâce à l'apparition de nouveaux genres tels le concerto de soliste, puis, plus tard, la symphonie. Au XIXe siècle, elle ajoute le ballet et le poème symphonique à ses prestations. La musique populaire. La musique populaire se rattache étymologiquement au peuple, à tout ce qui lui est propre, à tout ce qui s'adresse à lui. La musique techno, le reggae sont des musiques populaires. Les styles suivants font partie de cette catégorie. Le jazz, le blues, le rock'n'roll, le disco. Le jazz. Puisant ses sources dans la musique des esclaves dans les plantations du sud des États-Unis et étroitement lié à l'improvisation, le jazz connaît un essor important au début du XXe siècle grâce à une succession d'artistes talentueux. Jelly Roll Morton, pianiste faisant le lien entre ragtime et jazz dans les années 1920, Duke Ellington, pianiste et chef d'orchestre, et Django Reinhardt, guitariste gitan, premier grand musicien de jazz européen, font partie des pionniers. Louis Armstrong, 1901-1971, fut un chanteur et un trompettiste exceptionnel. Count Basie, pianiste, compositeur et chef de big band, les grands orchestres, est à l'origine du swing dans les années 1930 et 1940. Dizzy Gillespie, 1917-1993, trompettiste, est un pionnier du bebop dont Charlie Bird Parker, saxophoniste alto, sera considéré comme le maître incontesté.
Un peu de technique, les mots de la musique. Un accord est un ensemble de notes jouées simultanément. L'allegro est un tempo vif et gai. L'andante est un tempo modéré. Un baryton est une voix d'homme entre ténor et basse. Une basse est une voix d'homme la plus grave. Un bémol est un signe indiquant que le son de la note devant laquelle il est placé doit être baissé d'un demi-ton. Le contralto est la plus grave des voix de femme. Un contrepoint est une superposition de plusieurs lignes mélodiques. Le dièse est le signe indiquant que le son de la note devant laquelle il est placé doit être haussé d'un demi-ton. Forte est un son renforcé, une exécution vigoureuse. Fortissimo, qui doit être joué très fort. Une gamme est une succession ascendante ou descendante de notes, du grave à l'aigu ou inversement. Une harmonie est une combinaison de sons produits simultanément. Une mesure sont les notes comprises entre deux barres de mesure, formant un même nombre de temps. Un mouvement est une partie d'une œuvre musicale devant être exécutée dans tel ou tel tempo. Une octave est un ensemble de notes contenues dans l'intervalle de 8 notes d'une gamme et non données à la 8e note. Opus est un terme qui désigne un morceau de musique dans l'œuvre complète d'un compositeur. Pianissimo, très faible, très doux. Piano, doucement. Soprano est la plus élevée des voix de femmes ou de jeunes garçons. Un ténor est une voix d'homme élevée, comprise entre baryton et contralto. Le tempo d'une œuvre musicale est l'allure à laquelle elle doit être exécutée. La succession de notes de durée variable forme le rythme. Un temps est une division de la mesure et élément de base du rythme. Le timbre est la qualité d'un son, que ce soit celui d'une voix ou d'un instrument. Le ton est la plus grande distance qui sépare deux notes, équivalent à deux demi-tons. La tonalité est la première note sur laquelle une gamme est établie et qui donne son nom à cette gamme.
Le contrebassiste mort en 1979, Charlie Mingus, allie le jazz moderne et le blues, tandis que le trompettiste Miles Davis est l'initiateur de la fusion jazz-rock des années 1960. John Coltrane au saxo ténor et au saxo alto et Oscar Peterson au piano sont réputés pour leurs improvisations dans les années 60. Chanteuse de blues, Bessie Smith, 1894-1937, exerça une forte influence sur le jazz et la pop. Dans le domaine du jazz, Billie Holiday fut à son zénith dans les années 1930 et 1940.
Le saviez-vous? Sax alors. Curieusement, ce n'est pas un Américain, mais un Belge, Adolphe Sax, qui dépose le brevet d'invention du saxophone en 1846. Instrument avant, le saxophone se décline selon un grand nombre de variétés. 6 de ses 14 tailles sont d'ailleurs toujours utilisées. Saxophone contrebasse, basse, baryton, ténor, alto, soprano. Rarement utilisé dans la musique classique, il reste le principal instrument du jazz.
Le rock. Il tire son origine d'un compromis entre la country music, musique populaire américaine, le bluegrass, du nom des Bluegrass Boys, le premier groupe de Bill Monroe, et le rhythm and blues, l'une des formes d'expression du jazz. Dans les années 1950, il est vulgarisé aux États-Unis sous le nom de rock and roll, titre d'une chanson de 1934 qui signifie littéralement « balance et roule ». Avant l'avènement des Beatles et des Rolling Stones, le plus grand rocker de l'époque est sans conteste Elvis Presley, alias le King. Le disco. Le style disco a été indiscutablement lancé par le film de John Badham, La fièvre du samedi soir, qui a révélé John Travolta. Puis le succès de Grease a contribué à imposer le genre qui évolue peu à peu vers le funk, c'est-à-dire une interprétation sensuelle de la musique populaire. Le rap. Le mouvement se rattache à celui du hip-hop, de l'anglais « to be hip », être dans le vent, et « to hop », sautiller. La rythmique en est fortement saccadée. Rap en anglais signifie « frapper ». Le premier tube est enregistré à New York, sous le titre « Rapper's Delight », en septembre 1979, par le Sugar Hill Gang. Le reggae. Dérivé du calypso, musique de carnaval des Antilles, le reggae s'impose comme une musique jamaïcaine des années 1940, découverte en Occident en 1974 lors de la reprise d'un titre de Bob Marley, I Shot the Sheriff.
N'oubliez pas, Bob Marley, prophète Rasta. Bob Marley, 1945-1981, est considéré comme le premier prophète Rasta, du nom du mouvement Rastafari, créé à la Jamaïque dans les années 1930, puis exporté aux États-Unis. Être Rasta, c'est adopter un mode de vie, une philosophie de l'existence fondée à la fois sur le christianisme, la culture africaine, surtout éthiopienne, le marxisme et l'hindouisme. Il s'agit de montrer que les personnages les plus importants de la Bible sont noirs. Leur descendant spirituel serait l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, 1892-1975, couronné en 1930. Véritable messie, appelé Jah, abréviation du nom de Dieu, Jéhovah, il incarnerait l'espoir de tout le peuple noir. Les Rastas sont, en principe, végétariens, ne boivent pas d'alcool, n'approchent pas les morts. Ils se passent d'église et de hiérarchie ecclésiastique, mais reconnaissent l'autorité symbolique d'Haïlé Sélassié. Ils fument le chanvre suivant un rite spécifique, car cette plante aurait poussé sur la tombe du roi Salomon.
La techno. La techno est née à Chicago. Mélange de synthétiseurs et de musique à rythme diffusé simultanément, elle est sans cesse remise à jour grâce au détournement d'autres musiques. Dansez maintenant. Danse, danseurs et chorégraphes. La danse, selon la définition acceptée, est l'art de mouvoir son corps selon un rythme et un espace déterminés. L'histoire de la danse, c'est celle de l'évolution de la société tout entière et de son rapport au corps en mouvement. Danse populaire, de cour, sacrée ou liée aux grands événements de la vie, elles sont toutes là, toujours présentes. Seules leurs formes diffèrent en fonction de l'époque considérée et des effets de mode. La danse dans l'Antiquité. Les Grecs considéraient la danse comme l'art harmonieux par excellence. En ce sens, elle ne saurait avoir qu'une origine divine. Les trois muses associées à la danse attestent de cette origine. Uranie, également muse de l'astronomie, Polymnie et Terpsichore, dont le nom signifie « celle que la danse rejoint ». Durant l'Antiquité, la danse sert essentiellement à deux choses, honorer les dieux et préparer la guerre. Les Grecs pensaient que la danse était apparue en Crète, chez les courettes. Des hommes entrechoquant leurs armes, boucliers et épées qui frappent le sol de leurs pieds en tournant sur eux-mêmes et en poussant des cris de guerre. Ceci semblait poursuivre un double but, faire fuir les mauvais esprits et fertiliser la nature. La danse au Moyen Âge. Au Moyen Âge, la danse est réservée à des gens très jeunes à nos yeux, préadolescents et adolescents. Elle est un spectacle donné à voir. La somptuosité de la vêture, l'éclat des bijoux, les parfums enivrants comptent plus que les pas dansés. C'est dans le peuple que se réfugie la joie de danser main dans la main. À ses débuts, l'art de la danse est associé au sacré, mais l'Église la condamne, ainsi que son usage dans le culte. Les théologiens demandant même, en 589, l'intervention de l'appareil judiciaire contre les danseurs dans les églises. Pourtant, au cours du Moyen-Âge occidental, certaines danses se maintiendront dans les églises, les rondes et les caroles. La carole, du grec choreia, est un terme générique pour désigner la danse en rond. C'est une danse collective où les danseurs se tiennent par la main et forment un cercle, forme parfaite d'essence divine. Au XIIIe siècle, elle devient un divertissement aristocratique.
Le saviez-vous ? Tournez, tournez. Les derviches tourneurs appartiennent à une branche ésotérique de l'islam. Le soufisme. De l'arabe tasawuf, ceux qui portent des vêtements de laine. La danse soufie est une recherche de l'union en Dieu. La confrérie des derviches tourneurs est fondée par le poète du XIIIe siècle, Jalal al-Din Rumi, auteur du Mi'a et Navi, traité de l'extase conçu comme moyen d'entrer en contact avec Dieu. Les danseurs perdent la conscience de leur être propre et du monde qui les entoure, au profit d'un mouvement mystique, d'un irrésistible appel à se joindre au divin. Pour le derviche, le fait de tourner indique l'adhésion de l'esprit à Dieu par son mystère et son être. Le mouvement circulaire de son regard et de sa pensée, ainsi que la pénétration des degrés existants, sont autant d'éléments qui constituent l'état d'un chercheur de vérité.
La danse à la Renaissance. Le ballet, bien que déjà présent en puissance dans les mascarades du Moyen-Âge, fait son apparition en Italie à la fin du XVe siècle. Avant de parler véritablement de ballet, il faut attendre 1581, date à laquelle pour la première fois dans la salle du Petit Bourbon au Louvre, un ballet est donné à l'occasion du mariage du duc de Joyeuse. Son évolution ne cesse de se poursuivre jusqu'à l'époque contemporaine. L'un des tout premiers ballets est le ballet comique de la Reine de Balthazar de Beaujoyeux, représenté pour les noces du duc de Joyeuse et de Mademoiselle de Vaudémont, sœur de la Reine en 1581. Les maîtres à danser font alors leur apparition dans tout le pays. Ils rédigent les premiers manuels de danse et les premières écoles sont fondées. La danse classique. Du XVIIe au XVIIIe siècle, la danse est essentiellement un exercice aristocratique destiné à être vu. Les danseurs se montrent bien plus qu'ils ne prennent plaisir à danser. L'usage veut qu'on soit trop vieux à 20 ans pour continuer à danser, usage auquel Louis XIV met fin en dansant encore 10 ans plus tard, tant il apprécie cet art. Destiné d'abord à l'aristocratie, les ballets de cour prennent des formes théâtrales complexes. L'une des finalités est de mettre en valeur la puissance des monarques. Il décline vers 1670 pour laisser place aux ballets d'action, lesquels racontent une histoire sans l'apport de la parole chantée. En 1661, Louis XIV, grand admirateur de la danse et danseur occasionnel lui-même, fonde l'Académie royale de danse qui deviendra en 1684 l'Académie royale de musique et de danse. Les premiers danseurs professionnels font alors leur apparition. Les femmes peuvent commencer à monter sur scène. Dès le début du XVIIIe siècle, le besoin de danse en action se fait sentir. Les premières tentatives ont lieu en Angleterre. John Weaver y monte des spectacles qui mêlent adroitement danse et mime. L'Autrichien Franz Hilferding, l'Italien Gasparo Angiolini et le Français Jean-Georges Novaire imposent au XVIIIe siècle leur conception du ballet, dansé sur des suites d'air empruntées aux opéras, symphonies, romances. L'abandon du masque, des perruques et autres colifichets encombrants jusqu'alors de rigueur, ainsi que l'évolution de la mode marquée par un allègement du costume et par l'apparition de la chaussure à talons plats, favorise une progression considérable de la technique. À l'aube du XIXe siècle, tout est prêt pour amener l'éclosion du ballet romantique. La danse contemporaine. Elle naît véritablement avec les ballets russes de Diaghilev, puis s'incarne sous des formes multiples en fonction des compagnies, maîtres de ballet, créateurs et danseurs étoiles. Les ballets russes, fondés en 1909 à Saint-Pétersbourg, sont inséparables de l'influence des aquarellistes allemands et anglais, des peintres russes et finnois ou impressionnistes français. À leur tour, ils entraîneront d'autres arts dans leur sillage, comme la peinture, la musique ou la littérature, influençant jusqu'à la danse jazz avec les positions et la gymnastique rythmique avec leurs sauts. Le rapport fut d'autant plus décisif qu'au XVIIIe et XIXe siècle, les ballets étaient très réglementés. Il existait 5 positions pour la danse. Le Sacre du printemps en révèle 2 supplémentaires. Dans les ballets classiques, les danseuses ne pouvaient porter que des tutus. Dans les ballets russes, chaque rôle a son propre costume afin de différencier les personnages. Les décors qui ne tenaient qu'une place secondaire sont confiés à de grands peintres. Certains noms ont connu dans l'art de la danse des destinées exceptionnelles. Marius Petipas, 1822-1910, danseur et chorégraphe, acquiert une célébrité mondiale par ses ballets comme Casse-Noisette ou Le Lac des Cygnes. La plus grande partie de sa carrière se déroule en Russie, où il travaille pour le Théâtre impérial de Saint-Pétersbourg. Serge Liffard, 1905-1986, soliste des ballets russes, devient chorégraphe et maître de ballet à l'Opéra de Paris. De même, Vaslav Nijinsky, 1890-1950, qui suscite en dansant l'après-midi d'un faune sur le poème de Mallarmé et une partition de Claude Debussy au Théâtre du Châtelet, un grand scandale par l'audace de son interprétation. Georges Balanchine donne naissance au New York City Ballet en 1848, où il renouvelle la chorégraphie par des mouvements nouveaux, plus vifs, rythmés, sollicitant davantage le corps tout entier. Maurice Béjart, danseur et chorégraphe, fonde en 1960 le ballet du XXe siècle et s'affirme comme un créateur original aux sources d'inspiration variées. Rudolf Nureyev, danseur, chorégraphe et metteur en scène russe, débute sa carrière au Kirov de Leningrad en 1958. En tournée avec la compagnie à Paris en 1961, il choisit de rester en Occident où il se produit dans diverses troupes. Il est pendant longtemps le partenaire de Margot Fontaine dans le Royal Ballet avant de devenir directeur de la danse à l'Opéra de Paris.
Le saviez-vous? Isadora Duncan ou la danse tragique de la vie. Isadora Duncan, 1878-1927, commence sa carrière de danseuse à Londres en se produisant dans des salons privés, puis sur des scènes de théâtre. elle fonde en 1904 une école de danse pour les enfants déshérités. Son art, qui rappelle l'expression naturelle et spontanée de mouvements comme la marche ou la course, révolutionne la conception classique de la danse. Isadora rejette le titre et les chaussons de ballerine. Inspirée par les fresques représentant des femmes de la Grèce classique, elle leur emprunte la longue tunique et danse pieds nus, avec pour seul ornement une longue écharpe. Sa vie est marquée par la multiplication des événements tragiques. En 1913, ses deux fils se noient. Leur voiture tombe dans la Seine. Le 2 mai 1922, elle épouse le poète russe Sergueï Essénine, son cadet de 18 ans. Alcoolique, hantée par le désespoir, suicidaire, Essénine quitte Isadora en 1923. Le 18 décembre 1925, il est retrouvé pendu à un tuyau, dans sa chambre d'hôtel à Leningrad. À Nice, elle tombe amoureuse d'un vendeur de Bugatti. Le 14 septembre 1927, au soir, le jeune homme vient la chercher dans une voiture décapotable. À son accoutumée, Isadora porte châle et écharpe. Alors que la voiture est lancée à pleine vitesse, cette dernière se prend dans les rayons de la roue arrière. Isadora meurt étranglée.